Bravo, bravo pour être présent ce dimanche matin, à une heure à laquelle beaucoup de mammifères ont encore du mal à brancher leur néocortex, mais vous êtes là. C'est toujours impressionnant. Donc, jeu d'échelle et effets spéciaux dans le cinéma de science-fiction. Pour cette table ronde, nous avons ici, en partant du plus loin de moi, Laurent Kessy, auteur, essayiste, éditeur à 16h, un multicarte qui aime beaucoup de choses. Gilles Ménégaldo, spécialiste du cinéma américain, auteur d'un... Je ne vais pas compter les articles et le nombre de textes, hein, mais on doit être à quelques centaines. Ouais. Marc Caro, que je ne présente plus quand on arrive au dimanche et qu'on est à Nantes. C'est que ça m'embête. Donc, jeu d'échelle, le cinéma de science-fiction est un cinéma qui abuse en partie est fondé sur les effets visuels et les effets spéciaux. Le premier, soyons un peu cocardiers, après tout, le cinéma de science-fiction, c'est une invention française. C'est Méliès qui a tout mis en place. Est-ce qu'on peut déjà appeler les films de Méliès de la science-fiction ? Oui, parce qu'on a envie et que de temps en temps, on ne s'embête pas avec des étiquettes trop fines, histoire de restreindre notre objet. Et surtout, si on évoque Méliès, c'est parce que quand on parle d'effets visuels, quand on parle d'effets spéciaux, pratiquement tout a été inventé par cet homme-là. On va dire tous les principes fondamentaux des effets visuels qui vont être utilisés jusque dans les années 90, jusqu'au passage réellement au numérique. Presque tout a été expérimenté par Méliès. Presque l'ensemble des effets qui vont venir après ne sont que des extensions, raffinements, modifications, industrialisation, professionnalisation, injection massive de talents personnels au fur et à mesure de l'histoire. Mais les principes fondamentaux, il avait déjà tout fait au tout début du XXe siècle et avant évidemment que ces pellicules soient transformées en talons de chaussures ou soient perdues dans des greniers pour des parcs d'attractions. Et aussi des peignes. Donc là, cet aspect des effets spéciaux dans le cinéma de science-fiction, quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et il y a aussi les jeux d'échelle. Et les jeux d'échelle au sens large, on va parler évidemment de différentes échelles, hein, des échelles de taille, mais aussi des échelles temporelles. Le jeu d'échelle est aussi une donnée fondamentale de la science-fiction en tant que genre, et même dans ses racines. Hein, directement en tant que genre par les thèmes hein, qui sont déployés où effectivement on a une extension de l'échelle géographique hein, on ne va pas à Grande-Bretagne, on ne va pas à Vesoul, on va sur une autre planète. L'échelle temporelle évidemment avec cette chose typique hein, qui est la prise en compte de l'humanité dans son univers sur l'ensemble de son histoire, mais aussi en termes philosophiques. Un des textes qu'on dit faire partie, en tout cas, des racines de la science-fiction en littérature générale, en termes réellement philosophiques, celui qu'on cite très souvent, c'est Micromégas de Voltaire, dont le titre seul hein, fait le rapport entre le jeu d'extension d'échelle et la réflexion à laquelle ce jeu d'extension peut amener. En premier lieu, je vais donner la parole. À qui veut la prendre ? C'est une table ronde, je ne veux pas...
Bah, je pense que vous avez dit que Georges Méliès était donc le fondateur du film de science-fiction. Effectivement, c'est quand même lui qui a fait le premier voyage spatial hein, en 1902. Donc, il rentre aussi parfaitement dans le cadre de cette thématique d'échelle, parce que c'est aussi, je ne sais plus si c'est dans L'homme au cent-truc ou comme ça, où il y a déjà des transformations d'échelle. Il a été le premier à inventer un procédé de travelling avant. On enregistre, comme ça on fait grossir le visage de la personne hein, en s'approchant. Et après on réincruste ça par un jeu de cache sur un corps qui lui par contre est fixe. Et donc on a l'impression qu'il y a un changement d'échelle du visage. Quoi. Donc c'est vrai qu'il rentre parfaitement dans ce cadre-là. C'est vrai que c'est une thématique au niveau de l'échelle anatomique comme ça qui a eu aussi un grand retentissement. Il y a beaucoup de films. Hein. On va parler du Docteur Cyclope, des puppets. Je me rappelle plus de ce film de Brown là où on réduit les personnages. Voilà, les poupées du diable où on réduit les gens à l'état de petites poupées comme ça. Enfin bon. Et puis forcément un des chefs-d'œuvre du changement d'échelle qui est The Incredible Shrinking Man, l'homme qui rétrécit. D'après Matheson. Donc, on est effectivement en plein dans le cadre, en commençant par Georges Méliès. Voilà.
On ne peut jamais se tromper en commençant par Méliès, de toute façon.
Tu n'as pas de questions, donc c'est à moi de réagir. D'accord. Oui, bon, non, ce que je veux dire, c'est de toute façon, la question du jeu d'échelle se pose dans le cinéma en général, déjà, hein, quand même. Je veux dire, on se souvient, bien sûr, de. des lèvres de Orson Welles prononçant Rosebud, bouton de rose dans Citizen Kane. Hein. Là, on a vraiment un effet d'échelle. Ou alors, ou la boule de cristal qui roule et qui contient une maison, mais on voit pas. On voit d'abord le chalet, en fait, sous la neige, et après, il y a un travelling arrière qui permet de voir que ce chalet est contenu dans une boule de verre. Donc, cette question, bien sûr, se pose voilà, pour tous les films. Mais effectivement, dans le cadre du cinéma de science-fiction, et c'est vrai que c'est frappant déjà dans Le Voyage dans la Lune qui vient d'être évoqué, on a l'obus qui est parti de la Terre et qui vient se figer dans l'œil de la Lune. Voilà. Je voulais juste évoquer un film aussi des premiers temps, ce qu'on appelle maintenant. C'était un court-métrage anglais, je crois, où la caméra se rapproche, se rapproche d'une bouche de plus en plus énorme qui finit par avaler littéralement la caméra et peut-être le spectateur qui est derrière, qui est dans l'entre-deux, en quelque sorte, entre la caméra et le spectateur, l'écran et le spectateur. Alors, en ce qui concerne le cinéma de science-fiction, il y a multiples exemples, alors certains ont été cités. Je pense que ce qui est intéressant, c'est, par exemple, peut-être pour donner un exemple qui traverse un peu l'histoire du cinéma, à travers ses trois incarnations, c'est King Kong. Le premier King Kong de 1933, Shostak et Cooper. On a affaire à des trucages, disons, classiques, entre guillemets, ce qu'on appelle le stop motion image par image, qui anime des marionnettes de différentes tailles, et puis quand même avec des échelles effectivement extrêmement variées, puisqu'on a un avant-bras assez important, je crois qu'il devait faire un mètre ou deux, une tête assez gigantesque aussi, et par contre des marionnettes qui faisaient 10-15 cm de... Voilà. Donc on se pose la question finalement de la... Mais bon, je crois qu'il y a une distinction intéressante sur un plan théorique, hein, sans aller trop dans les détails, entre au moins deux types de niveaux, c'est-à-dire le niveau diégétique, le niveau de l'histoire elle-même, et puis le niveau cinématographique, ce que fait le cinéma, justement, par le montage, par le cadrage de la réalité. Dans le cas de King Kong, par exemple, le spectateur peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ces figurines, enfin, voilà, comment est représenté King Kong littéralement. Et il peut se rendre compte qu'effectivement il y a des transparences qui font qu'une marionnette toute petite peut être insérée dans un paysage gigantesque, etc. Dans la version de Guillermine, donc on est à l'époque de l'animatronique, c'est-à-dire c'est un deuxième stade, on n'est pas encore à l'époque de l'image numérique. Donc cette question de rapport avec un objet réel, donc une figurine, se pose toujours, d'une certaine manière. Simplement, les moyens sont plus sophistiqués que dans les années 30. Encore qu'ils sont déjà très sophistiqués dans les années 30, on pourrait parler de l'homme invisible, etc. Et la dernière version de Peter Jackson, évidemment, il n'y a plus cette fois de correspondant réel, puisque l'image numérique ne correspond pas à un référent dans la réalité. Et donc la question d'échelle se pose évidemment très différemment. Mais Peter Jackson, par contre, a respecté peut-être davantage les proportions réelles de l'animal, entre guillemets, dans le monde diégétique, que ne pouvait le faire, par exemple... de manière plus invisible, comme dirait le théoricien Michel Sion, c'est-à-dire un trucage invisible, effectivement, qui ne permet pas de repérer la différence entre l'objet lui-même et le...
Alors, c'est là où je m'insurge violemment, contre ce que vous venez de dire. C'est effectivement, au niveau des proportions simiesques, c'était beaucoup mieux rendu dans le film de Peter Jackson, mais j'ai trouvé un phénomène très, très étrange, c'est qu'on va vers un réalisme beaucoup plus important, au niveau de la créature, et je trouve qu'on y croit moins.
Alors, je suis voilà. D'accord avec vous. Hein. Bien sûr. Non, mais moi, je ne fais pas l'apologie du film de Peter Jackson, parce que je voulais juste donner des exemples, mais effectivement, bon, d'abord, ce qui a été gommé, je pense que ce n'est pas à cause de Peter Jackson, c'est à cause des producteurs, c'est les dimensions très érotiques du film de 1933, où il y a véritablement une histoire d'amour entre le singe et la Anne Darrow, donc... interprétée par Faye Ray, qui est ce qu'on appelait la Scream Queen, c'est-à-dire la reine littéralement du cri de l'époque. Et d'ailleurs, le film est aussi très intéressant à ce niveau-là, même si on n'a pas... La question de l'échelle se pose déjà de manière imaginaire sur le bateau, si vous vous souvenez de King Kong, où on fait répéter à Anne Darrow, donc la jeune actrice, comédienne, une scène qu'on tourne et on lui fait... disons, tenter de se représenter la différence d'échelle justement entre elle et un singe gigantesque qui l'observerait, un animal gigantesque qui l'observerait. Et c'est à ce moment-là qu'elle pousse son fameux cri, mais ce cri en fait est poussé d'abord face à une créature imaginaire, hein, qui est dans le hors-champ, littéralement. Et ensuite, elle poussera ce même cri face à la créature réelle. Mais tout à fait d'accord sur le fait que le film de Shostak et Cooper est beaucoup plus... et voilà, crée beaucoup plus d'émotions.
Je trouve que c'est beaucoup plus crédible.
Plus d'émotions et presque plus de crédibilité. Et puis, il y a aussi quand même l'apport des décors, et en particulier des décors inspirés des gravures de Doré, de Gustave Doré, puisque c'est l'une des influences majeures du film.
Et la version de Laurentis avec Jessica Lange est aussi beaucoup plus imprégnée d'érotisme que la dernière version, c'est clair.
Ouais, quand on connaît Jessica Lange, et par exemple dans sa version du Facteur sonne toujours deux fois, on comprendra pourquoi. Voilà, je m'arrête pour l'instant.
Non, moi j'ai deux réflexions par rapport à ce qui a été dit, notamment à ce que tu as dit au début sur les jeux d'échelle temporelle. J'ai tout de suite pensé à un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Cloud Atlas, qui se déroule sur une échelle temporelle assez vaste. Et pour les jeux d'échelle, il faut toujours des référents. Et là, ce qu'ils ont trouvé, c'est de grimer les acteurs, de faire rejouer les mêmes acteurs à différentes époques, des personnages qui ont des liens ou pas d'ailleurs, en les grimant, de façon plus ou moins réussie d'ailleurs. Et cette idée du référent, voilà, je trouve que c'est une belle idée. Après, on peut penser ce qu'on veut du film. C'est une belle idée de jeu temporel. Une autre réflexion aussi par rapport à ce qui a été dit, notamment sur Méliès et sur les effets spéciaux en général. On évoque Méliès, c'est un type qui est un magicien à la base, qui est un vrai prestidigitateur, un magicien, qui applique les recettes de la foire, de la magie
voilà,
au cinéma.
Du théâtre, les effets du théâtre,
bien sûr. Mais la tradition des effets spéciaux se construit là-dessus, sur cette sorte de magie. Et j'ai l'impression qu'on perd ça avec les effets numériques et on perd cette espèce d'émerveillement qu'on a. On est complètement blasé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis complètement sur les effets spéciaux maintenant numériques. On peut montrer n'importe quoi. Je n'ai plus aucun émerveillement. Il n'y a plus de trucs à chercher. Il y a plus de... Il y a des explosions gigantesques. Il y a toutes sortes de choses et on se dit, oui, bon, c'est fait avec des ordinateurs, d'accord. On ne réfléchit plus à peut-être à la façon dont c'est fait. Bah, et les effets spéciaux sont devenus des effets normaux presque. Enfin,
Là aussi, c'est, je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a cette profusion d'effets spéciaux qui, malheureusement, sont au service de rien. C'est plutôt ça la problématique, parce que les effets spéciaux, ils deviennent de plus en plus parfaits, mais ils sont juste là pour faire du bruit, du boucan et du spectaculaire, et ils sont plus au service d'une émotion. Et donc, je crois que c'est là qui fait qu'on a ce sentiment vis-à-vis d'eux. Mais ce côté d'émerveillement, je vois le succès, par exemple, de Gravity, qui, grâce à ses effets spéciaux, on commence à pouvoir être complètement immergé dans le film, où, à travers ces effets spéciaux, on commence à... D'abord par un plan où on est à l'extérieur et puis on passe dans la vision subjective du personnage, etc. On commence à retrouver ce côté un peu spectaculaire qu'il y avait au début de Méliès. On voyait ces films-là dans des baraques foraines où on était émerveillé par ce qu'on voyait. Il y avait un phénomène de découverte. Et on a besoin qu'on voit le succès d'Avatar ou le succès de Gravity. On a besoin de retrouver un peu ces sensations. Et donc, les effets spéciaux sont juste un outil. Si on s'en sert pour rien en faire, forcément qu'ils ont un aspect un peu ennuyeux. Mais si on commence à les mettre au service de cette immersion, je ne sais pas, moi, ce que j'ai envie, c'est de participer et d'oublier que je suis en train de voir un film et de participer à l'aventure qu'on me propose. Et donc, si ils sont utilisés dans cette attention... Forcément, dans cette intention, forcément, je pense qu'on va retrouver cet aspect merveilleux, quoi.
Ils le sont que trop rarement et voilà, le cinéma fait une espèce de bloc. On est en train de revenir à un truc d'attraction, en fait, la 3D. C'est un peu dommage. Quoi,
ça dépend de la finalité de ce qu'on fait. Si le but est de juste amener des gens payer leur place. Et de faire du... rentrer. Mais il y a aussi des gens qui veulent utiliser cet outil-là pour faire peut-être de nouvelles propositions, aussi bien narratives qu'émotionnelles que sensitives. Et donc, si c'est à ce service-là, je pense qu'on peut retrouver cet émerveillement.
Je vais réagir à deux petites choses, histoire de... déjà, la première, c'est que moi, je suis assez... l'apport de la 3D ou le fait que le cinéma soit effectivement émerge du parc d'attractions, c'est là qu'on a trouvé, hein, c'est chez les forains qu'on retrouve énormément des bandes de cette époque. C'est effectivement un art de prestidigitateur. Mais ce qui fait la force de Méliès, il y a le tour de force technique, ça, absolument. Mais ce que lui apporte en plus, c'est qu'on n'a pas dans les plagiats d'Edison de la même époque ou autre, c'est un sens de la narration. C'est, il a des histoires à raconter. Au-delà des effets spéciaux, il a aussi inventé le documentaire politique. Il fait des séries, je veux dire, de documentaires sur l'affaire Dreyfus. Il a inventé. Donc je pense que, effectivement, et c'est, je vais l'évoquer au début, on est complètement d'accord, c'est que le jeu d'échelle pour le jeu d'échelle, on va y venir dans une minute. Effectivement, que ce soit dans le genre, en littérature ou au cinéma, on n'est pas que sur de l'effet. Et là où je reviens à Méliès et à la 3D, c'est la leçon de Scorsese. Moi qui me suis retenu pendant plus d'un an à voir Hugo Cabret pour pouvoir le voir en 3D, il réussit à réintroduire la 3D, mais telle que c'est. C'est-à-dire, dans la... moi, le plan où il refait, en fait, où il reconstitue le, film, le tournage de Méliès en servant de la 3D pour nous mettre l'aquarium au premier plan, pour qu'on voit ces formes qui tombent et récupérer justement une forme de... vraiment de magie, et c'est là qu'il est dedans, je trouve ça extraordinaire. Effectivement, quand il n'y a pas de fond, les effets n'ont jamais fait des bons films. Parce que je trouve aussi qu'il y a une chose qui est assez amusante avec les effets numériques, on y reviendra tout à l'heure, c'est le fait qu'ils soient développés de manière invisible. Pendant un bon moment, la plupart des effets numériques dans un film, on ne les voit absolument plus. C'est très très rare d'avoir un film où on utilise encore des lances d'incendie pour faire pleuvoir. La plupart du temps, maintenant, c'est devenu moins cher d'introduire de la pluie en numérique, puis ça évite les problèmes de santé des acteurs. Mais je vais quand même revenir à une chose sur effectivement le fait que les effets peuvent faire des genres. C'est qu'on a toute, je vous redonne la parole, on a toute une veine de films qui se développe à partir de Them. On a toute la carrière justement de Brett I. Gordon, de Mr. Big, avec ses effets de rétroprojection d'animaux. On a tout un genre qui s'est développé uniquement sur un effet de jeu d'échelle. Hop, je vous laisse la parole.
De peut-être donner un exemple intéressant d'évolution. Effectivement, tu fais référence au film de science-fiction des années 50, dont on pourrait parler longuement pour d'autres aspects idéologiques notamment. Effectivement, toute une génération de films qui, à partir du péril atomique en particulier, va multiplier les créatures gigantesques, ou les humains gigantesques d'ailleurs, comme la femme de 50 pieds, par exemple, ou d'autres. On voit une femme gigantesque qui... ou Colossus, etc. Bon, voilà. Alors, je voulais juste donner un exemple intéressant, de changement de stratégie, mais au service quand même d'une idée. Dans le film qui s'appelle Les monstres attaquent la ville, c'est un film de 1954, je crois, de Gordon Douglas, s'appelle Them. Hein. Them, c'est eux, littéralement. C'est une petite fille qui est sous l'impact émotionnel de la rencontre avec ces créatures, des fourmis gigantesques, qui dit Them, hein, c'est eux. Voilà. Et donc, en fait, là, on sait que le spectateur va avoir un trucage visible. C'est-à-dire, ce sont des fourmis géantes, ce sont en fait des fourmis mécaniques de 3 mètres de long, avec des opérateurs à l'intérieur, etc. Et bon, en général, elles sont filmées, on voit bien que leur démarche est assez, mécanique, voilà, mécanique à tous les sens du terme. Et donc on joue le jeu, en quelque sorte, de croire à une fiction qui est effectivement totalement invraisemblable. On ne peut pas imaginer de ces fourmis-là, voilà. En 1900, je crois que c'est... fin des années 70, il y a un film qui est réalisé par, c'est son seul film d'ailleurs, par Saul Bass, hein, vous connaissez pour les effets spéciaux de 2001 de l'Odyssée de l'espace, ça s'appelle Phase 4. Et c'est également une histoire de fourmis, mais c'est pas forcément les fourmis qui sont mutantes en termes de taille, mais en termes d'intelligence. Et donc, l'astuce de Saul Bass, c'est d'une part d'avoir filmé les fourmis en tant que telle, c'est-à-dire par macrophotographie, microphotographie, donc on voit les fourmis dans leur élément naturel, en quelque sorte, dans les termitières, etc., dans les fourmilières, pardon, d'un côté, et d'un autre côté, les êtres humains, les scientifiques étudient, examinent les fourmis dans une sorte, d'ailleurs, de lieu clos, et qui va être littéralement investi par les fourmis, assiégé par les fourmis, sont filmés comme des personnes réelles, etc. On n'est pas encore à l'époque du numérique. Mais par contre, l'astuce, c'est d'avoir montré des jeux d'échelle dès le début du film par un plan extraordinaire d'une fourmi sur un fond de lune énorme. Et plus tard, on voit aussi une fourmi qui s'approche du visage d'une femme endormie, qui vient littéralement se poser sur l'extrémité de la paupière et qui littéralement regarde la femme dans l'œil. Et donc, à ce moment-là, on perçoit les jeux d'échelle, mais de manière à la fois très visible, mais en même temps sans trucage. Alors que les deux mondes sont totalement séparés et les techniques sont extrêmement différentes. Voilà, donc ça, c'est, il me semble, c'est un exemple intéressant de l'évolution dans les représentations, mais avec un propos très clair. Dans le premier cas, c'est évidemment le péril atomique, etc. Dans le second cas, le cas de phase 4, c'est comment les humains pourraient être éventuellement contaminés par une intelligence non humaine. Et le film, sans faire de spoiler, il y a une relation particulière qui s'établit à la fin du film entre l'humain et la fourmi. Voilà.
Moi, pour en revenir au processus d'échelle, il y a un processus qui est quand même très présent depuis le départ, aussi bien dans les films de Cooper et Schoensack, même chez Méliès, tout ça, c'est le phénomène de maquette. C'est vrai que même pour, au niveau des outils pour la fabrication des films, on a depuis le début, hein, même depuis Ben-Hur, tout ça, et depuis les films des années 20, avec par exemple Metropolis, Eugène Chouftan, qui était le chef opérateur de Metropolis, a créé un matériel qui s'appelle l'effet Chouftan, qui est un genre de système où on gratte un miroir dans lequel, à travers ce petit grattage, on peut filmer par exemple des acteurs qui sont mis dans le studio au loin, et devant on va mettre une maquette devant ce miroir qui est forcément une échelle plus petite, et comme ça on va pouvoir intégrer les personnages dans ce décor en raccordant le petit bout de décor qu'il y a avec les acteurs à la maquette. Et donc c'est un processus qu'on a utilisé énormément, hein, soit à travers ce système de miroir, hein, de jeu avec des miroirs, soit après grâce à Schoensack, Cooper, O'Brien, qui a fait tous les effets spéciaux de King Kong par exemple, et de son élève qui est donc Ray Harryhausen, qui vont jouer avec ces transparences. On filme quelque chose et on vient réincruster des acteurs devant, on filme des fois, alors là c'est plus pour les films de Irvin Allen, on va aller filmer des lézards ou des petits crocodiles déguisés en dinosaures, et puis on va réincruster des acteurs devant. Enfin, il y a tout un jeu comme ça d'échelle entre les marionnettes, les décors qui sont faits en maquette et le jeu des acteurs, soit sur fond, pas encore à l'époque sur fond bleu, qui a permis ce jeu d'échelle, quoi, de changement d'échelle. Donc même à l'intérieur de la fabrication du cinéma filmique, il y a aussi ce jeu à travers les échelles pour des histoires de coûts. C'est vrai qu'à certains moments, c'était pas possible de construire certains décors, quoi. Et certainement même dans, pas que dans les films de science-fiction, hein, puisque même dans Ben-Hur, dans comment s'appelle les 10 commandements, etc., ça a été usé et abusé, quoi. Voilà.
Juste pour rajouter un détail avant de donner la parole à Laurent, je pense qu'il faut aussi évoquer alors l'effet Chouftan évidemment, mais aussi, d'ailleurs c'est combiné parfois, et on trouve ça aussi dans de nombreux films, pas seulement de science-fiction, le matte painting, c'est-à-dire des peintures sur verre qui permettent de prolonger considérablement le décor.
Une des plus célèbres, c'est quand même la fin de La planète des singes, hein, ouais, avec ce matte painting de la Statue de la Liberté ensablée.
Oui, tout à fait. Oui. Donc cette technique du matte painting est une technique quand même pour un spectateur pas forcément averti, parfaitement invisible. C'est déjà une technique invisible. Évidemment, on s'aperçoit quand on fait attention, par exemple quand on regarde les oiseaux de Hitchcock, qui est aussi construit beaucoup sur des matte paintings, on a l'impression de paysages réels, mais enfin toute la plupart des paysages qui sont sur une base réelle sont transformés par des peintures sur verre. Et donc, en fait, on s'aperçoit que dans le même cadre, dans le même plan, il peut y avoir, je sais pas, jusqu'à 5 ou 6 niveaux différents d'incrustation d'images. Mais effectivement, pour le spectateur, encore une fois, ça n'est pas forcément visible. Donc, on a déjà cet effet d'invisibilité bien avant l'ère du numérique. Mais évidemment, dans le cas du numérique, ça devient proprement invisible.
Ça me fait juste penser à un effet spécial dans Alien, ou vraiment artisanal, où quand ils découvrent l'espèce de gros vaisseau, je ne sais plus comment il s'appelle, au tout début du film, où ils sont en costume de cosmonautes. Et en fait, c'est un jeu d'échelle, ce sont les enfants de Ridley Scott qui sont les cosmonautes, parce que la maquette n'était pas assez grande.
Ouais. Voilà. Ça avait été déjà fait, ça, dans La nuit du chasseur, où à un moment, on voit se découper le chasseur et tout ça, et comme Robert Mitchum était trop grand, ils ont pris un poney et ils ont mis un nain dessus pour... voilà, pour que ça, la silhouette puisse se découper
c'est,
au loin.
C'est voilà. Ce qu'ils font dans Le Seigneur des Anneaux très souvent.
Dans le premier, en tout cas dans le Communauté de l'Anneau, on a une espèce de catalogue, mais presque une rétrospective historique des techniques. C'est-à-dire qu'on a...
Oui, mais alors là, dans le premier Seigneur des Anneaux, je pense que les effets spéciaux ne sont pas invisibles. Hein. On les voit quand même, on voit les découpes et tout.
C'est vrai voilà. Que c'est celui qui a le plus... Techniquement, voilà. Il a déjà vieilli, mais c'est vrai qu'on a de tout. Le jeu sur les tailles des différents personnages, la position de la caméra, le jeu de perspective tout simple, le jeu sur les lignes de fuite aussi, hein, qui peuvent donner des illusions assez incroyable.
Oui, hein, des vrais mouvements de caméra et des mouvements de caméra qui sont purement numériques, justement des travelling numériques.
Etc. Et des réductions numériques.
Et des réductions numériques aussi.
Alors, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, justement avec ce micro-mégas, je ne sais plus qui parlait de ça, c'est vrai qu'il y a une autre possibilité qui existe maintenant au niveau cinématographique, c'est qu'on peut faire des différentes échelles, presque de passer du microcosme au macrocosme en un seul plan. Et c'est vrai parce que maintenant, il y a les moyens de pouvoir matcher deux échelles et de passer de l'une à l'autre sans que personne s'en aperçoive. Et ça permet de filmer quelque chose à une échelle vraiment macroscopique et puis tout d'un coup faire un mouvement de caméra absolument fabuleux et se retrouver en plein dans le cosmos, etc. Avec une dimension effectivement fractale comme ça. C'est pas très compliqué. On a des outils comme le morphing et tout ça qui permet de matcher à certains moments dans un filet de mouvement caméra entre deux parties de plans différents. Hein.
Oui, mais alors justement, est-ce que ça a l'impact poétique que pouvait avoir, par exemple, pour prendre l'exemple bien connu, de 2001 Odyssée de l'espace, où on passe de l'os projeté lentement dans l'espace par un singe au vaisseau spatial. Donc là, on a un changement d'échelle spectaculaire, effectivement, et qui est fait simplement par un effet de montage. Bon, on a la même idée dans un film qui n'est pas un film de science-fiction, mais qui est un grand film de Laurence d'Arabie, donc, où le personnage de Lawrence, interprété par Peter O'Toole, a une allumette qu'il souffle dans la main, et cette allumette, par la grâce du montage, devient un soleil illuminant le désert. Donc là, là, il y a un effet poétique, effectivement, qu'on a du mal peut-être à retrouver parfois dans les effets numériques actuels.
Oui.
Enfin, qu'on a du mal à retrouver, ouais. Je ne vais pas dire qu'on ne le retrouve pas.
Ouais. Mais... En même temps, ce n'est pas du tout le même processus. D'ellipse, hein, un processus elliptique, on passe d'une image à une autre, et c'est le spectateur qui fait... Le processus. Et l'autre, c'est il y a toujours cette différence, mais comme en science, en mathématiques, tout ça, entre le continu et le discret. Donc là, on n'est pas exactement dans le même registre. Mais maintenant, les deux possibilités sont permises. Donc quand on a des couleurs comme ça à sa palette, on peut, suivant l'intention qui est donnée dans ce qu'on raconte, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Quoi.
Il y a aussi un trucage plus ancien, c'est simplement le fait d'avoir des objets surdimensionnés. Par exemple, dans les poupées du diable, je crois que c'est le cas, bon, les personnages humains évoluent au milieu de décors qui sont largement surdimensionnés. C'était le cas aussi dans un très joli court-métrage de Laurel et Hardy, où on voit Laurel et Hardy miniaturisé, effectivement,
dans L'Homme qui rétrécit.
Dans L'Homme qui rétrécit.
Là, il y a plusieurs échelles, puisque le personnage, ouais, le voit à différentes tailles. Quoi.
Il y a l'araignée en plus, ça cumule plusieurs effets dans vos
paroles. Oui, l'araignée qui Là, il y a beaucoup d'exemples. Hein, Tarantula de Jack Arnold aussi, où on a une araignée géante, effectivement.
Et ça a même servi dans un film qui s'appelle quoi, Top Secret, je crois. Où il y a des échelles comme ça pour un peu parodier certains effets qui avaient été faits par Hitchcock de premier plan où par exemple je crois, c'est dans lequel film dans un des Hitchcock il y a un téléphone qui est en premier plan et pour avoir cet effet un peu comme si c'était fait avec une focale hein, de caméra le téléphone était exagérément grossi, quoi.
Il y a ça en Top Secret et Gilliam joue aussi avec dans le Baron de Munchausen. Au premier plan, il y a un gigantesque cadenas et on voit la clé et en fait ça se recule et le cadenas il est juste gigantesque, effectivement.
Je sais pas, juste un mot pour. S'il y a un film peut-être que vous connaissez moins que 2001 Odyssée d'espace qui précède de peu, c'est le voyage dans le corps humain de Richard Fleischer, où on a des individus, des scientifiques qui sont introduits dans un corps, qui sont miniaturisés et introduits dans un organisme. Et là aussi, on a un jeu d'échelle tout à fait passionnant, disons, avec un travail de décor, évidemment, de reconstitution des organes.
Et avec Raquel Welch qui nage à l'intérieur de la horte et de.
C'est la seule fois qu'on a envie d'être un anticorps.
Voilà, c'est vrai.
Ça, c'est rare comme sensation. Donc je pensais, déjà je pensais sur, il y a plein de choses là qui viennent à l'esprit en même temps, je pensais aussi sur cet effet de montée quand même avec les différentes, dans les origines de celui de 2001, il y a Karel Zeman dans son Baron de Münchhausen, on a le même effet comme ça de montée à partir de traces de pas et on passe dans le ciel et c'est un autre énorme praticien des effets spéciaux qui arrivait à tout mélanger du collage, de l'animation, du matte painting, bon, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire qui a pas assez évoqué de manière générale, mais il y en avait un en bas, je crois que j'ai vu un Zeman qui était...
Voyage fantastique, oui. Ouais.
Et, alors une autre chose qui m'intéresse, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est que déjà il y a trois choses, et je vais vous lancer les pistes et vous laisser réagir dessus, c'est que d'une part, il y a un moment, on va quand même revenir, mais là de manière un peu plus précise, sur cette idée de ce que modifie vraiment le passage au numérique. Si on veut poser une date du moment où le paradigme numérique s'impose, le film marquant, c'est Jurassic Park. C'est un film où même pendant la production, c'est la période à laquelle quand on commence à produire du film comme ça, les réalisateurs sont encore attachés à de l'animatronique pour plein de raisons. On commence à prendre confiance dans les effets numériques, mais pas complètement. C'est en gros... Mars Attacks, parce que même Burton du coup reconnaît que en numérique il arrive à avoir les mouvements qu'il veut et avoir une présence à peu près similaire à du stop motion, et Jurassic Park qui enfonce le clou où là ok on peut y aller en numérique et savoir, on a commencé à débrouiller ça y est la question, mais de manière un peu plus précise, comment vous avez perçu en tant que praticien, en tant que spectateur ou en tant qu'analyste ce passage, et j'ai l'impression que c'est une première piste qui suffit pour que...
Alors, c'est vrai que Jurassic Park est presque le premier moment où on va un petit peu laisser tomber les animatroniques. C'est vrai que même un des chantres de l'animatronique qui était Phil Tippett va à partir de ce moment-là, je crois qu'il a bossé sur le projet, mais après il a dégagé puisque c'est passé chez ILM, hein, les effets spéciaux, et donc après lui il a dû vraiment se remettre en cause et il a travaillé, donc il s'est mis au numérique et ça a donné après Starship Trooper, hein. Toutes les créatures de Starship Trooper ont été faites en numérique. Donc c'est vrai qu'il y a un genre de changement de paradigme à partir de ce moment-là où les réalisateurs plus traditionnels se disent « Ah, ça y est, enfin, on va un petit peu moins s'embêter au tournage avec ce matériel qui est quand même très très lourd, hein, d'animatronique qui souvent ne marche pas vraiment bien non plus. Hein. Il y a eu tous les problèmes, par exemple, de Spielberg. Lui, il avait vraiment souffert avec ça. C'est pour ça qu'il a dû se jeter dessus sur les effets numériques pour Jurassic Park, parce qu'il avait tellement souffert avec les dents de la mer que son requin devait lui rester un peu en travers de la gorge. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça convainc, on se dit on peut arriver à un réalisme assez, assez fou, parce que le cinéma numérique est arrivé quand même beaucoup plus tôt que ça, hein, puisque un des premiers films qui a vraiment révolutionné, qui justement joue aussi beaucoup sur la problématique d'échelle, c'est Tron, hein, qui réduit par un processus de physique les personnages à l'intérieur d'un microprocesseur. Bon, moi je trouve pas ça très crédible, mais bon, voilà. Mais donc c'est vrai que à l'époque ça pouvait ce n'était pas assez réaliste, hein. Fallait vraiment imaginer un univers comme a été designé, je crois que c'est même Moebius qui a designé l'univers, mais il fallait que ce soit un petit peu abstrait comme ça, hein. Autrement c'était pas assez réaliste. Donc effectivement je suis d'accord avec toi, Jurassic Park a permis de changer la donne.
Non, c'est marrant, Tron, parce que c'est un film où on voyait que ça, que les effets numériques, ça jouait là-dessus, sur le fait que ce soit un ordinateur, sur le fait que ce soit ces couleurs comme ça, ce design. Et plus ça va, plus les effets numériques se sont fondus. Comme tu disais tout à l'heure, pour la pluie, on les voit plus, c'est un peu aussi ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est devenu tellement banal qu'ils n'existent quasiment plus. Ouais. Enfin,
les effets numériques ont permis deux choses. C'est quand même là pourquoi on s'est jeté dessus, c'est parce qu'au niveau des coûts, ça a quand même transformé beaucoup la donne aussi. C'est vrai que maintenant, il n'y a presque plus de grands décors qui sont construits. Hein. On construit tout ce qui est à l'échelle humaine pour qu'il y ait que tous les contacts, les portes qu'on ouvre, les choses comme ça, bon, forcément, comme il y a une interaction avec les comédiens, ça, il faut que ça existe encore, mais tout le reste, dès que vous avez des plans larges dans n'importe quel film, pas que de science-fiction, tout est complété par des matte painting numériques maintenant, c'est plus des glass painting. Toutes les séquences d'action que vous voyez dans, il y a quand même de plus en plus de gros films d'action où on détruit tout, où les camions, les effets spéciaux, les cascades et tout ça, elles sont presque toutes faites sur fond bleu. On rajoute tout ce qui explose. Même, je pense que maintenant, tout ce qui était artificier, hein, les trucs d'explosion, on doit encore en faire un petit peu, mais la majeure partie du temps, c'est aussi rajouté en post-production à travers les effets spéciaux numériques. Donc ça remplit beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup maintenant de créatures. Avant, c'était quand même des acteurs qui étaient... on voit Chewbacca, tout ça. Ils passaient 3 heures à se mettre des poils sur le visage pour faire comme ça. Et maintenant, on remplace quand même tous ces personnages-là par des créatures de synthèse avec des acteurs qui sont captés en motion capture avec des capteurs. Et après, on enregistre que la gestuelle de l'acteur, hein, comme ça a été fait pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc, ça investit, je pense, un peu beaucoup de, tu vois, la déco, tout ce qui est les vaisseaux, les avions. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'avions qui sont faits en vrai. Hein. Alors, de temps en temps, il y a certains films où, mais là, c'est vraiment une volonté du réalisateur ou de l'équipe qui a envie de revenir à quelque chose un petit peu plus traditionnel. Et c'est comme en musique, au lieu de jouer juste sur des synthétiseurs, on a envie de temps en temps de revenir au clavecin ou à la vielle de gambe. Il y a des gens qui refont maintenant des films d'une manière plus traditionnelle, en stop motion, un peu comme Ray Harryhausen, ou en décor, ou même, je suppose, en animatronique. Mais c'est vraiment une volonté. Le marché, enfin, et la production a plutôt tendance à aller vers une baisse des coûts.
Quelle est la démarche alors pour ces auteurs qui veulent revenir à cette tradition un peu ? Est-ce que c'est retrouver la magie d'antan ? Ou c'est simplement travailler différemment comme on le faisait autrefois ? Ou il y a une idée artistique derrière ça ?
Je pense que c'est une volonté artistique. Hein. C'est vrai que peut-être qu'il y a un genre de standardisation qui se fait à travers certains outils qui font qu'au bout d'un moment, ils ne sont pas satisfaisants. Donc, on a envie de revenir à autre chose ou quelque chose où aussi... c'est une différence de travail. C'est que tout ce qui est... encore que de stop motion, tout ça, c'est compliqué. Mais l'animatronique et tout ça, c'est pendant le tournage que vous voyez le résultat. Alors que la majeure partie du temps, faut faire un effort de prévisualisation très grande pour imaginer, bon, là, je filme l'acteur comme ça, on va rajouter ceci, là, il va y avoir une deuxième couche avec les décors, et puis là, ça va exploser là, puis là, il va y avoir... là, vous voyez quand même qu'il y a un mec avec des capteurs sur le visage qui bouge comme ça, se dire qu'après, c'est un alien... qui bavent et tout ça, faut vraiment faire un effort d'imagination, quoi. Donc, ça dépend du feeling du réalisateur. C'est vraiment... c'est chacun un peu son truc. Hein.
Oui, non, mais je vais je suis d'accord à ce qui vient d'être dit. Moi, en tant que spectateur, hein, je peux plus parler en tant que spectateur que créateur, comme mon voisin. Effectivement, j'ai senti la différence entre un film comme The Thing de Carpenter, par exemple, qui est encore fondé sur l'animatronique, qui est un remake d'un film antérieur des années 50 de Howard Hawks et Nibi. Et là, je trouve quand même que les créatures en animatronique sont quand même assez, assez crédibles. Enfin, c'est quand même un moment où l'animatronique est un peu à son sommet, dans d'autres films aussi de la même période. Mais effectivement, quand j'ai vu Jurassic Park aussi, même si je n'ai pas trouvé que le film, au niveau scénaristique, était forcément passionnant, mais les créatures sont extrêmement convaincantes, effectivement.
Alors, voilà. Je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est que des fois, je trouve plus convaincant certains processus d'animatronique, ou même, moi, j'étais un peu déçu, par exemple, pour Avatar, J'ai un peu une impression de Roger Rabbit dans Avatar. C'est quand je vois les créatures bleues, je ne crois pas. Je vois des créatures de synthèse. Je ne crois pas. J'aurais eu à la place des acteurs avec des masques en latex, bien fait, tout ça. J'aurais plus cru parce que je les sentais à l'intérieur du même. Là, je sens des couches. C'est bon, c'est mon feeling. Mais et donc, je trouve qu'il y a ce phénomène-là. Bon, maintenant, on commence à arriver à des choses où c'est vrai que c'est invisible. Hein. Mais dès que, par contre, c'est humain, là, on a vu, par exemple, ici, la projection d'un film qui est techniquement quand même beaucoup, très, très bien réalisé, là, le Albator. Quand on est sur des références d'humains, c'est une tendance qu'a beaucoup le cinéma 3D japonais d'essayer de refaire, comme dans les jeux vidéo, hein, Final Fantasy et compagnie, des gens hyper réalistes comme ça. Ça, c'est difficile. On n'est pas encore arrivé à. On est tellement habitué, le spectateur et l'être humain est tellement habitué à reconnaître le moindre détail, la moindre micro mouvement du visage humain que pour l'instant on n'est pas encore.
On nous promettait des acteurs virtuels, enfin de ressusciter même des acteurs, de les faire jouer par la version numérique. On en est encore loin.
On est assez loin. Et puis de toute façon. Si on y arrive, je vois pas bien l'intérêt parce que on va se retrouver, ils vont nous refaire Ben Affleck en vrai, enfin faux.
Comment ça, il est toujours avec Marilyn Monroe.
Ouais, c'est ça.
On est déjà capable de faire des sauts périlleux, je veux dire à Christopher Lee à 85 ans quand même,
c'est pas mal. Et à Yoda aussi.
Yoda, qui lui est encore plus vieux.
C'est marrant d'ailleurs, Yoda, c'était une poupée qui est devenue un personnage numérique qui a changé de forme en fait et qui était 100 fois plus convaincant en poupée. Quoi. Oui. Il était 100 fois plus convaincant en poupée, enfin, les expressions, le jeu. Il y avait un jeu d'acteur puisque le marionnettiste était là, faisait la voix.
C'est vrai que d'une manière générale, le paradigme numérique a fait. En tout cas, bouger le cinéma plus du côté de la peinture. On est passé progressivement du théâtre à la peinture, prendre comme dominante.
Oui. Encore que c'est en train de changer, hein, parce que moi j'ai vu certains cinématiques de jeux vidéo, là, ils ont fait un genre de truc pour la PS4 qui est Dark Sorcerer, je sais pas quoi, où c'est en temps réel et c'est des acteurs, bon, il y a de la mocap et tout ça. Et ils font comme si c'était la séance de shooting et ils se plantent, ils recommencent leur texte et tout ça. Et c'est quand même assez impressionnant. Hein. Au niveau des expressions, des trucs, là on commence à se dire ça approche. Quoi.
Le syndicat des acteurs commence à fouetter peut-être.
Ouais.
Je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais. Effectivement, la question de la texture dans le numérique, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément pris au. Voilà, c'était un peu la faiblesse du numérique. Et on s'aperçoit, on a possibilité de traiter de manière indépendante les différents paramètres de l'image, etc. Fait qu'effectivement, on arrive à quand même des choses très très sophistiquées maintenant, même si c'est pas encore parfait. Alors par contre, on perd. Bah, c'est toujours ce qu'on disait. On perd peut-être en émotion, en effet d'identification sur le spectateur, etc. Bon.
Et encore, je me demande dans quelle mesure c'est pas. Enfin, fondamentalement, ce que je crois, c'est que moi, une dimension en plus, j'adore. Enfin, moi, je fais partie des espèces d'enthousiastes de la 3D, non pas parce que j'ai envie de voir Resident Evil 6, mais parce que j'ai envie de voir Hugo Cabret, parce qu'Avatar, ça fonctionne bien en 3D. Mais comme d'habitude, je dirais, s'il n'y a pas d'histoire, quelle que soit la qualité des effets, je veux dire, si l'histoire ne suit pas, c'est pas bien.
Alors là, il y a une confusion qui est en train de se faire, hein. C'est surtout en France, parce que. Les termes anglo-saxons n'ont pas du tout le même. C'est la 3D, c'est l'image de synthèse et c'est le relief. C'est pas pareil, hein, quand même. Là, toi, tu parlais du relief, je pense. Ouais. Alors que là, moi, quand je parlais de la 3D, je parlais de l'image de synthèse, du fait qu'on arrive à modéliser des. Voilà, d'accord.
Et je voulais rajouter, il y a deux choses qu'on a relativement peu évoquées dans les effets d'échelle. C'est effectivement, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure au niveau du récit, c'est l'échelle temporelle. Et le fait est qu'il y a l'échelle temporelle dans le récit, ça, c'est quelque chose de fondamental en science-fiction, mais techniquement, à l'avancée, maintenant, on modifie aussi l'échelle temporelle à la réalisation. Là, le moment qui change, on va dire, les codes, je veux dire, de la représentation du temps dans des films de genre comme ça sont énormément influencés par Spielberg dans toute sa carrière, la manière de construire des scènes d'action, d'étirer ou d'accélérer. Et après, on a l'autre point qui est l'arrivée de Matrix, où là, on va commencer effectivement à pouvoir étirer des moments extrêmement courts jusqu'à arriver en ce moment à une certaine mode des procédés de time-lapse ou des procédés d'arrêt sur image aussi qui permettent de mettre en valeur justement les technologies relief de plein de manières. C'est pour ça que vous voyez, c'est les deux choses qu'on n'a pas vraiment encore pu évoquer qui sont ça, c'est-à-dire la manipulation désormais de l'échelle temporelle, est-ce que ça permet. Et j'ai envie de dire derrière, le relief, les technologies relief, effectivement, parce que si on parle de jeu d'échelle, si on parle d'accentuation des échelles, des effets de plongée, etc., et aussi d'accentuation des échelles temporelles à travers ces jeux, justement, sur la profondeur d'une image, d'arrêt sur image, on a quelque chose... Pour la manipulation du temps, on commence à avoir pas mal de recul, et là, qui est en train de coalescer avec les dernières technologies, et je voulais avoir votre sentiment sur ce dernier aspect. Tout ça dans un grand sac.
Certes.
Oui.
D'accord.
Non, mais c'est... Ça, genre, on en revient à 2001, et à ce changement d'échelle, enfin, c'est sans doute l'ellipse la plus longue du cinéma, j'imagine.
De toute façon, excuse-moi, je te coupe. Les processus, ils n'ont pas tellement évolué. Parce que quand, tu vois, tout ce qui est le bullet time et tous ces trucs-là, c'est depuis Jules-Étienne Marais, c'était déjà existant. Hein, ce genre de trucs, on met plein d'appareils photo et on essaye de capter sous tous ces aspects, enfin, sur tous ces côtés, un mouvement. Donc... tous les processus d'étirement, de contraction de temps qui sont faits soit par le montage, soit par maintenant un travail de stretching sur le défilement des images et des choses comme ça, sont là depuis très longtemps. Maintenant, c'est vrai que ça s'est répandu beaucoup parce que avant c'était très difficile à réaliser et l'outil numérique a permis une simplification et une baisse des coûts pour faire ces effets-là. Donc là aussi encore, on abuse. Maintenant, c'est vrai que faire un bullet time dans un film commence à avoir un côté tellement cliché que c'est un peu difficile à voir. Mais et de toute façon, c'est Matrix qui a vulgarisé ça, mais ces processus étaient existants déjà dans des clips depuis une dizaine d'années avant de l'utilisation massive dans Matrix. Donc tout ça, c'est quand même que des processus, c'est que des techniques. Maintenant, on peut faire avec, même au niveau des mouvements de caméra, on peut vraiment faire n'importe quoi maintenant. C'est vrai qu'au niveau de l'imagination, l'outil n'est plus restreignant. Donc on peut se permettre n'importe quoi. La problématique qu'il y a, par exemple, pour le relief ou pour des choses comme ça, c'est plus d'écrire en fonction. Moi, j'aime beaucoup Avatar, mais je trouve que, à part certaines séquences, c'est quand même écrit en 2D, c'est pas écrit en 3D. Donc un des premiers, je trouve, qui est vraiment écrit en 3D, c'est Gravity, parce que là, c'est une vraie immersion complète, et il y a ce côté continu, ce que je pense... que nécessite le relief, et peut-être Pi, où il y avait aussi des très très belles choses au niveau de l'écriture en relief. Sinon, la majeure partie des films qu'on voit, c'est quand même des films écrits en 2D et qui sont peut-être de temps en temps, éventuellement, si le réalisateur fait un petit caca nerveux, tourner en relief. Sinon, c'est post-produit en relief. C'est quand on tourne normalement et après, on calcule numériquement la vision binaurale du truc. Donc, pour l'instant, moi, ma difficulté avec ce cinéma-là, et je trouve qu'ils refont exactement la même bêtise qui avait été faite dans les années 50, où on avait essayé aussi de promouvoir le cinéma relief, c'est que, un, les salles, pour des économies un peu mesquines, mettent pas, enfin, pour faire durer les lampes, les mettent pas à fond, donc on est comme ça avec nos lunettes de relief et on voit presque rien. Machin, c'est pas bien réglé la majeure partie du temps. Ils ont choisi le procédé qui était le plus cheap, parce que les lunettes ont été données par le mec qui voulait développer. Enfin, il y a plein de trucs qui sont plutôt qui vont contre la qualité, qui font qu'ils sont un peu en train de dégoûter le public d'aller voir ces films-là. Mais de toute façon, je pense que c'est irrémédiable. On va aller. Je pense qu'il y aura un grand saut de fait vers le relief si on n'a plus besoin de lunettes. Dès qu'on va pouvoir voir sur votre écran, mais ça existe déjà, hein, des écrans où vous regardez votre écran et vous pouvez voir en relief. Voilà. Voilà ce que j'avais. Voilà.
Voilà, bah, avant de prendre quelques questions, je pense effectivement quand on regarde les derniers films de cette année, je suis d'accord, moi ce qui m'a frappé avec l'arrivée de la 3D et avec les critiques qu'il y avait, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes critiques et les mêmes discussions qu'à l'arrivée du parlant et l'arrivée de la couleur. Ce sont exactement les mêmes arguments, c'est pour faire de l'argent, ça coûte plus cher, c'est pas vraiment du cinéma, ça sort. Mais le truc qui, moi, je suis complètement d'accord sur l'Odyssée de Pi, c'est Cameron, qui lui a travaillé très très longtemps hein, sur la 3D, il a commencé des années avant de réussir à l'imposer à l'industrie, il n'y a que lui qui pouvait le faire, c'est qu'il insiste lui sur une chose, et je suis assez d'accord qu'on revient au parc d'attractions, parce que les effets de sortie, les effets de relief qu'on avait, qui sont vraiment les effets de sortie d'écran, de boules qui apparaissent juste là, c'est des effets typiquement de parc d'attractions, c'est là qu'ils ont été développés, mais surtout en termes simplement neuronales, en termes si on veut donner mal au crâne à quelqu'un, il suffit de lui mettre une boule devant la tête très très loin. Ouais. Enfin, plus c'est proche, plus non, c'est dur.
C'est pas exactement ça. Il y a quand on travaille comme ça sur le relief, il y a quelque chose qui s'appelle la zone de confort. C'est vrai que ce qui se passe, il y a eu des études qui ont été faites sur comment on perçoit le relief, et c'est vrai que ça nécessite plus de temps que pour percevoir une image bidimensionnelle. Et donc, il y a des phénomènes qui ont été qui sont faits pour le cinéma traditionnel. Hein. C'est vrai que il y a eu une accélération du montage, par exemple, qui fait que on est obligé de revenir maintenant, si on veut écrire pour le relief, à des rythmes plus lents, parce que notre cerveau met un 2 secondes pour percevoir l'espace. Et donc, si vous faites des plans qui durent juste 1 seconde, et ben, là, vous avez cette zone de confort qui saute. Et ça veut dire que votre cerveau, dès qu'il a ces genres de petites imperfections, et ben, il décroche. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait pour l'écriture du relief, où on revient à la physiologie, parce que ce qui est assez étrange, c'est qu'avec ce retour au cinéma en relief, on revient avec quelque chose qui est naturel, puisque nous, notre vision, elle est tridimensionnelle. Quand on regarde comme ça, on est dans un espace en relief. On a été habitué depuis plus d'une centaine d'années à travers le cinématographe à percevoir, et à travers la télévision, et à travers les écrans plats, etc., à percevoir un monde qui est plat, en fin de compte. Et donc là, il y a une réappropriation à faire chez l'humain d'une vision naturelle. Et je trouve ce paradoxe assez intéressant et passionnant à explorer, quoi. C'est vraiment...
Donc le prochain film qu'on voit de Marc Caro sera en 3D?
Bah, ça fait oui, mais ça, j'espère, mais c'est pas sûr, parce que ça coûte cher quand même, le relief.
Donc ouais, ça coûte encore cher.
Voilà. Hein, et la technologie qu'il y a pour l'instant pour tourner, c'est vraiment du lourdingue. Des gens comme Peter Jackson, effectivement, peuvent se permettre ça, mais des pauvres auteurs français, c'est un peu plus difficile, quoi. Voilà. Mais la technologie évoluant d'une telle manière qu'on voit tout ce qui se passe avec des petites caméras, là, les GoPro, des choses comme ça, qui peuvent filmer en relief et tout ça, je me dis que bon, faut explorer et moi je suis plutôt optimiste. Et je pense que à travers les nouveaux modes de médias qui existent, si le jeu vidéo, etc., où là aussi on a besoin de cette immersion et de cette interactivité, je pense que tout ça va vers une sorte de nouveau média qui sera certainement tridimensionnel, interactif. Et bon, c'est comme tous les médias. Hein. Avant, le cinéma, au départ, c'était quand même... on filmait comme ça, la caméra ne bougeait pas. On filmait du théâtre un peu. Hein. Même Méliès, à ce niveau-là, il n'a pas tellement innové. Hein. C'était, la caméra était fixe et tout se passait sur une petite scène. Il a fallu attendre les années 20, vraiment, fin des années 10 et 20, pour que le cinéma expressionniste, le cinéma allemand, commence à s'emparer de la caméra, la fasse bouger, la jette en l'air, etc. Donc voilà, il faut une phase d'acclimatation. Au départ, on copie souvent le média qui nous a précédés. Voilà.
Je veux juste dire un mot, on l'a évoqué très brièvement, alors ça peut être un effet d'échelle, mais c'est surtout un effet spécial, c'est le morphing. Je crois que c'est quand même quelque chose qui moi m'a assez fasciné, effectivement, peut-être encore plus que le Jurassic Park, par exemple. Mais ça, c'est pareil, ça existe depuis les années 30, en fait. C'est-à-dire que la transformation du visage, par exemple, de Jekyll and Hyde dans le film de 1932, de Mamoulian, c'est déjà un morphing. Simplement, c'est un morphing qui est fait par des procédés classiques, entre guillemets. Mais quand même, moi, j'ai été assez frappé, enfin, assez fasciné par la manière dont on voit c'est Terminator 2, effectivement, les évolutions de la forme, ou The Abyss, par exemple, les créatures abyssales de Cameron. Ça m'a beaucoup plus impressionné, en fait, que peut-être que les créatures jurassiques.
Oui. Alors, je pense que moi, au niveau de l'image de synthèse et de l'image numérique, la chose la plus passionnante, mais on n'en a pas eu encore, enfin, on l'a eu un petit peu dans certains films un petit peu psychédélique comme ça, mais on n'a pas encore vraiment utilisé le cinéma numérique dans ce qu'il peut vraiment apporter. C'est vrai que le cinéma numérique a la possibilité de visualiser des abstractions que ça, c'est un outil qu'on n'avait pas avant. Hein, qui n'existait pas. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a certains auteurs qui ont développé ça, mais c'est plutôt dans de la recherche. Il y a Kawaguchi, un japonais, qui a créé des films de processus de croissance, comme ça, un peu psychédélique, mais avec des formes et des choses presque mathématiques, des processus mathématiques qui se développent. Ou un Anglais aussi qui a créé des processus vivants de créatures comme ça, complètement virtuelles. Il s'appelle William Latham. Et je pense que c'est dans cet espace-là qu'il y a vraiment la nouveauté, l'originalité, quoi. Les autres processus, c'est vrai, préexistaient déjà. Hein. C'est vrai que dès le départ, Georges Méliès a l'incrustation, enfin, presque tout, la disparition, l'apparition, enfin tout ça, presque les principaux procédés étaient présents. Mais là, visualiser certaines formules mathématiques ou processus fractaux, tout ça, on ne peut le faire qu'avec le numérique, ça c'est clair.
Donc il y aura une vie après les Kaiju et les Jaegers en train de se taper sur la tronche.
A priori, normalement.
Ce qui ne m'empêche pas de faire une grande facture.
Si la planète survit à autre chose.
Pas évident. Moi, ça ne m'empêche pas d'attendre avec une grosse flaque de bave de voir Smog en 3D dans. Allez, 2 mois. Bon, un gros dragon en 3D, pas bouder son plaisir non plus. Bon, on prend quelques questions. On prend une question, il n'en peut plus, vous la poser. Eh bien, dans ces cas-là, on peut pas prendre de questions. Ils vont vraiment. Non, je vais me faire frapper là-bas. Non, ils veulent vraiment pas. Je suis petit, je peux pas résister. Merci à tous. Les gens qui sont autour de la table sont accessibles autour si vous voulez venir leur poser des questions. Et bonne journée.